Bonjour. Nous sommes réunis maintenant pour une table ronde sur le don de l'immortalité. Table ronde qui, comme vous commencez, à le détecter, tournera en grande partie autour du cycle de Dune de Frank Herbert. Alors, quelques mots avant de présenter nos intervenants. Pierre Versin, donc il n'est pas Frank Herbert, hein. Pierre Versin, qui est un grand érudit de la science-fiction, fondateur de la Maison d'ailleurs à Yverdon, et qui a proposé notamment son encyclopédie, sa massive encyclopédie de la science-fiction, s'est interrogé sur la possibilité d'inclure l'épopée de Gilgamesh. Alors pourquoi parler de Gilgamesh justement dans la science-fiction ? Alors Gilgamesh, c'est une épopée, un mythe vieux de plusieurs millénaires. Dans quelle mesure est-ce que c'est de la littérature de science-fiction ? Eh bien, dans la logique de Versin, à partir du moment où... même si le mythe lui-même ne fait pas partie de la science-fiction, le moment où Gilgamesh essaye d'atteindre l'immortalité grâce à une plante, donc grâce à un procédé qui est potentiellement ancré dans une réalité physique, eh bien, ça peut entrer dans le domaine de la science-fiction. Et là, en fait, il me semble, pour inverser un peu la perspective, que le raisonnement que suit Pierre Versin dans cette logique-là, c'est-à-dire immortalité égale potentiellement science-fiction, nous indique à quel point le thème de l'immortalité fait partie des objets privilégiés potentiellement de la science-fiction. Alors, longtemps, cette idée d'immortalité, donc de suspension du temps, de longévité maximale, a été associée à un imaginaire du surnaturel. On la prête aux dieux par opposition aux mortels, on la prête à ce qui survit dans l'au-delà, éventuellement, dans un certain nombre de religions. Et cette idée d'immortalité a commencé à entrer dans le domaine du possible scientifique en raison des progrès de la médecine et des promesses des sciences du vivant en général. Alors, échapper au temps qui passe, autant que possible, au vieillissement, ou se régénérer potentiellement à l'infini, vivre éventuellement plusieurs existences sur des supports biologiques par l'intermédiaire du clonage, tout cela, ce fantasme de l'immortalité prend de nombreuses formes dans la science-fiction. Et alors, un cycle, donc celui de Dune, est particulièrement fécond en la matière et source de nombreuses audaces conceptuelles qui ont trouvé depuis, parce qu'on parle de textes qui sont écrits depuis les années 60 jusqu'à nos jours, si on prend les continuations actuelles, qui sont le fait notamment du fils de Frank Herbert, ça a trouvé des échos dans la recherche contemporaine. Et donc, c'est autour de ce cycle en particulier que nous allons demander aujourd'hui quelle signification l'immortalité peut prendre pour l'humanité et quelle perspective la science, comme la science-fiction, ouvre sur cette question. Alors, pour ça, donc, nous allons écouter Karim Si Taïeb et Nathalie Dubois. Donc, Nathalie Dubois est professeure de littérature et Karim Si Taïeb est chercheur à l'Institut du Thorax à Nantes il travaille notamment sur la question des cellules souches pluripotentes humaines en lien avec toutes sortes de questions qu'il va développer, mais je n'anticipe pas pour le coup maintenant. Alors, pour commencer, quelques mots pour situer un petit peu, rappeler à tout notre public un petit peu ce que c'est que ce cycle de Dune et donc quels sont les points essentiels à connaître avant d'entrer dans le détail de la question de l'immortalité.
Alors, je vais commencer un petit peu à présenter très rapidement le cycle de Dune et ce qu'il faut savoir. Donc, tout d'abord, c'est une civilisation qui est basée sur une source de richesse qui s'appelle l'épice. Qui est fabriqué par des vers des sables qui existent sur une seule planète, Arrakis, et qui permet aux gens d'acquérir des pouvoirs, notamment de prescience, de divination, et qui permet aussi d'autres choses,
des voyages avec la guilde des navigateurs.
Tout à fait. Et si tu veux continuer, c'était pour présenter l'épice déjà.
Donc autour de l'épice, il y a plusieurs familles ou maisons qui s'organisent pour essayer de maîtriser un peu le flux de l'épice. Hein. L'épice doit couler, donc la civilisation tourne autour de l'utilisation de cet ingrédient en particulier. Et donc ces maisons sont quelque part... manipulées par une sororité qui sont les Bene Gesserit, donc c'est un ensemble de femmes qui développent certains, enfin une, je sais pas comment dire, une,
Un pouvoir de manipulation, peut-être, pour être un peu rapide, qui s'exerce aussi bien par des pressions mentales qu'elles exercent par l'intermédiaire de leur voix, notamment.
Le contrôle métabolique voilà. Et le fait d'influencer en fait, les alliances entre les maisons pour essayer de réunir un répertoire de gènes. Donc on parle déjà un peu de génétique. Hein. On était dans les débuts des années 60. L'ADN venait juste d'être...
1961 pour
le premier tome. L'ADN venait juste d'être modélisé. Et en fait, ces femmes ont la possibilité de revenir dans leur vie antérieure, enfin dans l'expérience des sœurs précédentes, donc ce qui leur permet de voyager un peu dans le temps, mais dans le passé. Mais elles essaient aussi d'avoir le côté préscience, mais il y a un endroit en particulier dont elles ne peuvent pas avoir accès, et seul, selon la légende, seul un homme peut y arriver, le Kwisatz Haderach. Et donc ce fameux messie est le fruit en fait, de tous ces croisements entre les familles pour arriver à ce personnage en particulier.
Donc ce sera le personnage de Paul Atréides qui va incarner le Kwisatz Haderach. Et ce personnage va suivre un destin qu'il ne connaît pas vraiment, qu'il va élaborer en cours de route. Et pour sauver notamment un peuple, le peuple de la planète Arrakis. Moi, je vais davantage parler de son fils, Leto II, qui est aussi appelé l'Empereur Dieu, et qui va poursuivre le chemin de son père. Donc, en fait, Paul Atréides, grâce à l'ascendance de sa mère, qui est une Bene Gesserit, a lui aussi des pouvoirs de préscience, qu'il va exploiter, mais pas totalement, là où son fils, Leto II, lui, va devenir totalement préscient. Donc peut-être je peux dire un mot de ce qu'est la préscience. Donc c'est la capacité, en fait, de deviner l'avenir. C'est une notion qui, au départ, hein, est un concept philosophique qui est lié à Dieu. Hein, donc Dieu est préscient parce qu'il est capable d'embrasser la totalité du temps, le passé, le présent et le futur. Et c'est la capacité que va acquérir Leto II, le fils de Paul Atréides. Donc il a une possibilité de connaissance du futur qui fait qu'il va pouvoir imaginer tous les futurs possibles d'une situation et choisir la voie qui lui semble la meilleure à suivre. Voilà.
Mais en fait, si on veut, par exemple, si on prend le film Retour vers le futur, qui est un exemple d'un futur linéaire, où là, en fait, on a Marty qui revient dans le passé, qui va effectuer des modifications qui vont changer le futur, il va devoir revenir dans le passé pour pouvoir remettre le futur dans sa normalité. Dans le cas de Leto II, en fait, lui, il a... C'est une espèce de surpuissance de préscience. Il arrive à voir tous les scénarios possibles et imaginables, les conséquences, revenir en arrière pour chacun d'entre eux et voir en fait ce qui va permettre d'accéder à la meilleure destinée pour l'humanité, qui en fait tente de sauver et qu'il matérialise sous la forme du sentier d'or.
Oui, voilà, moi j'allais effectivement en arriver là. Donc, Leto II ne naît pas immortel. L'immortalité va lui être... il va devoir cheminer pour la trouver. Et ce chemin, en fait, va comprendre des étapes qui vont contribuer à le transformer. Donc, il va se transformer lors d'une retraite dans le désert. Et son corps va fusionner en profondeur, si je puis dire, avec les truites des sables d'Arrakis, qui sont une forme primitive, primitive, larvaire du ver des sables, donc ce même ver qui donne l'épice. Et quand je dis qu'il va fusionner profondément, c'est parce que la peau de truite va vraiment s'ancrer dans son corps et s'implanter jusque dans ses organes. Donc en fait, il va y avoir un espèce de don de soi pour acquérir l'immortalité, c'est-à-dire qu'il donne de sa personne, il n'est plus le même avant sa transformation et après. Hein, donc il y a un renoncement et un altruisme profond quand même dans ce personnage de Leto 2, puisqu'il renonce à son intégrité humaine et de plus son but c'est de sauver l'humanité. Donc en fait il est déjà saisi d'un premier paradoxe puisque c'est en essayant de sauver l'humanité qu'il devient lui-même inhumain, hein, puisqu'il n'est plus, il n'est plus un homme, il devient autre chose, il devient un ver. En fait, vous avez sur le PowerPoint qui défile plusieurs images de Leto 2 en une fois transformé, hein, et on voit bien que de la transformation par les larves détruites des sables, il résulte que au début de l'Empereur Dieu, il devient une espèce de ver énorme qui mesure 7 mètres, pèse 5 tonnes et donc n'a plus rien d'humain. Voilà, donc il fait don de son corps pour atteindre l'immortalité.
Et du coup, cette immortalité s'accompagne donc avec notamment le côté de l'épice. Donc là, il est vraiment, il incarne en fait l'épice parce qu'il est le seul ver restant, je crois.
Oui, il est le seul ver restant d'Arrakis.
Et il accède donc, et ça c'est là où ça rejoint un peu les discussions qu'on a pu avoir une table ronde précédente. Il accède en fait à une pas une manipulation du temps, mais il englobe le temps, ne serait-ce que par le passé, avec la possibilité de vivre toutes les vies qui ont été vécues, et par le côté prescient, très compliqué, où il arrive à discerner ce fameux sentier d'or, mais ce n'est pas sans conséquence. Donc il y a l'ennui, notamment.
Oui, donc effectivement, l'immortalité pose quelques problèmes. C'est un concept qui est largement abordé dans Dune. Donc l'immortalité lui pose d'abord le problème d'être un être unique, hein, dans son cas, puisqu'il est le seul à vivre aussi longtemps. Il va imposer à l'univers de Dune un règne de 3500 ans, dans lequel bien sûr il voit mourir ses congénères et lui il continue à vivre. Et cela est lié chez lui à un ennui très profond, puisque non seulement il est immortel, et donc on peut imaginer déjà une certaine lassitude à l'existence quand on est immortel, mais en plus c'est doublé de ce don de prescience, donc de cette capacité à deviner l'avenir, ce qui fait que c'est un personnage qui n'est plus jamais surpris. Il ne peut pas être surpris puisqu'il connaît l'avenir, hein, il sait tout ce qui va se passer et il sait tout ce qui s'est passé. Donc en fait, on a dans l'Empereur Dieu de Dune un personnage très, très introspectif, en fait, qui prend beaucoup de temps pour réfléchir sur lui-même et justement sur son humanité et son inhumanité, et qui est finalement traversé de préoccupations très humaines alors qu'il n'est plus lui-même un humain. Et il trouve quelques petits stratagèmes aussi pour se sortir de son ennui. Notamment il se réincarne dans des personnages du passé, il adore revivre la vie d'un chanteur d'opéra, il adore se transformer en gladiateur de l'époque romaine, voilà, il se trouve des occupations dans le passé et il adore parfois que quelques personnages réussissent à le surprendre, puisqu'il y a quelques personnages dans Dune qui sont capables d'échapper à sa prescience et qui sont capables de le surprendre. Je pense notamment à un attentat raté contre sa personne, où Duncan Idaho sort une bombe et il ne l'avait pas prévue. Et cette surprise lui fait immensément plaisir, puisque ça avait échappé à la totalité de son savoir. Voilà un petit peu pour l'ennui mortel, justement, de cet immortel, qui est quand même assimilé à un dieu. Hein, donc ça c'est, bon, voilà, c'est l'immortalité, c'est un concept qui reste théologique et qui l'est encore dans Dune.
Mais il garde quand même une forme d'humanité, donc par le souci de préserver l'humanité elle-même, mais aussi la surprise qui s'accompagne d'événements très très humains, si tu veux en parler.
Oui, tout à fait. Donc il va dans l'Empereur Dieu, il va quand même tomber amoureux, ce qui reste un sentiment plus qu'humain. Il va tomber amoureux d'un personnage qui s'appelle Winori et qui est un personnage qui a totalement échappé à ses prévisions, à ses prédictions. Donc je pense que c'est un signe, aussi un clin d'œil d'Herbert qui veut nous dire que l'amour, c'est finalement toujours ce qui vient nous surprendre et ce qui échappe à la prévisibilité. Et finalement, c'est dans cette dernière union qu'il va réussir à trouver sa mort, hein, ce qui peut être surprenant pour un immortel, mais bon, il y a d'autres immortels qui meurent, hein, je pense à Achille, par exemple. Et il va mourir, en fait, sur le chemin de son mariage. Il va tomber dans le fleuve Idaho. Et comme il s'est transformé en ver et que la seule chose que les vers ne supportent pas, c'est l'eau, il va se redissoudre et se retransformer en truite des sables. Et il va vivre encore, on va dire, sous une autre forme, puisque les truites des sables vont donner à nouveau des vers à la planète Arrakis qui n'en avait plus. Voilà, donc il y a ce personnage dont il est amoureux qui va venir le surprendre totalement. Bien que dans cet amour, il renonce quand même à la sexualité. Donc là aussi, on a toujours ce paradoxe entre l'humanité et l'inhumanité. Hein. C'est une humanité entachée d'inhumanité. Et il reste aussi. Alors c'est une autre. Enfin, il reste très attaché à des humains. Voilà. C'est...
Oui, parce que du coup, il y a. Son humanité se traduit aussi par cet attachement pour un personnage en particulier qu'il aime voir et revoir et re-revoir et qui en fait peut le surprendre aussi. Donc, et ce personnage, c'est
Duncan Idaho. Donc Duncan Idaho était un personnage qui était un mentor de son père, Paul Atreides, et auquel il reste très attaché humainement, justement, hein, par un espèce de lien lié à sa lignée. Et ce personnage, il va faire appel aux Tleilaxu, qui sont des personnages qui ont la capacité de régénérer dans leur cuve axolotl des hommes. Voilà, donc ils font de la manipulation génétique, hein, déjà avant l'heure, et ça leur permet de régénérer toutes sortes d'humains. Je vais laisser le spécialiste parler des questions de clonage.
Moi, je trouve que donc Duncan, c'est un personnage assez atypique à plusieurs niveaux. Déjà, bon, si pour les gens qui ont pu voir le film de David Lynch, en fait, on le voit pas beaucoup, Duncan Idaho. On le voit un petit peu au début, et puis on le voit sauver Paul Atreides et mourir. Et ensuite, on le voit plus du tout dans tout le reste du film. Alors qu'en fait, ça va être l'un des personnages principaux sur une grosse partie des tomes qui vont suivre. Et il se trouve que donc Leto s'amourache un peu de sa présence et demande à une civilisation particulière, donc le Bene Tleilax, qui est une civilisation qui, en fait, s'est focalisée sur... Donc, on a la photo, là, ici. On a un Tleilaxu avec donc les cuves axolotles qui, on découvre plus tard, sont des femmes qui ont été complètement déshumanisées pour, en fait, une espèce... Donc, ça a été évoqué avant l'utérus artificiel, mais qui n'est pas si artificiel que ça parce que c'est au détriment d'énormément de femmes qui ont été utilisées pour ça. Et, en fait, cette civilisation a trouvé le moyen... de comprendre le langage des cellules, donc en fait pour décoder l'ADN, et de pouvoir le manipuler à façon pour faire revenir des gens. Et pour ça, ils utilisent des cellules prélevées soit sur une personne ou un cadavre pour pouvoir, grâce au cuve axolotl, régénérer cette personne. Alors déjà, le premier clin d'œil, c'est le nom de la cuve axolotl. En fait, axolotl, c'est un animal. Qui a ce don de régénération, un peu comme la salamandre, qui a une image qui tourne en ce moment. En fait, cet animal, si on lui coupe un membre, les cellules peuvent se dédifférencier pour pouvoir régénérer le membre et ensuite reprendre leur fonction normale. Et donc, ces cuves ont un peu ce rôle, à partir de la cellule d'une personne, de pouvoir générer une personne entière. Alors, quand l'Empereur Dieu est sorti, c'était au début des années 80, en 81. En 81, en biologie, on commençait juste en termes de cellules souches, à comprendre les cellules souches et la souris et à faire de la transgénèse avec, donc vraiment manipuler les vivants pour avoir des souris transgéniques qui peuvent être vertes, fluorescentes ou qui expriment différents outils qui permettent de comprendre des objets fondamentaux de la biologie. Ce que Herbert a imaginé dans son œuvre, c'est la possibilité de prendre une cellule de quelqu'un et de la faire revenir à l'état de cellule souche pour pouvoir redonner un individu. Et il se trouve que c'est une réalité, presque une réalité. En fait, c'était l'objet du prix Nobel 2012, Shinya Yamanaka et Gurdon, qui ont montré qu'on pouvait reprogrammer une cellule déjà spécialisée en cellule souche pour ensuite lui faire devenir n'importe quelle cellule du corps humain. Alors, on n'est pas encore à l'embryon et au clonage. Mais ça montre, moi, quand je lisais L'Empereur Dieu ou le reste du cycle de Dune, à la fac, on nous disait, une fois que la cellule souche est différenciée en cellules différentes, une cellule spécialisée, elle ne peut plus revenir en arrière, c'était le dogme. Une quinzaine d'années plus tard, ce dogme a été cassé, et ça montre aussi qu'on pense avoir des connaissances stables et figées, et en fait, tout ça évolue avec le temps. Donc on se retrouve avec cette technologie qui est abordée par Frank Herbert, qui devient une réalité. Le TLELAX peut générer donc ces personnes, peut les modifier, et donc ça fait appel maintenant à une autre révolution de la biologie moléculaire qui est le CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas. Et cette technologie permet de manipuler très précisément le génome de n'importe quel être vivant, hein, donc, y compris l'homme, pour pouvoir soit corriger des mutations, soit ajouter de nouveaux gènes, les enlever ou d'autres manipulations. Et donc nous, au laboratoire, on utilise ce type de technologie maintenant pour essayer de comprendre des pathologies, notamment à partir de personnes qui ont des maladies génétiques et pour qui c'est très difficile d'avoir un modèle de laboratoire. On peut maintenant utiliser des cellules de cette personne. Donc initialement, c'est des cellules de peau. Maintenant, on peut isoler des cellules à partir d'échantillons d'urine, donc ce qui simplifie largement le processus. Et il y a 5 ans, je ne pensais pas qu'on pouvait sortir des cellules d'échantillons d'urine, mais effectivement, c'est le cas. Ces cellules peuvent être amplifiées au laboratoire et ensuite, on les reprogramme pour devenir des cellules souches. Donc ça, c'est un processus qui peut prendre jusqu'à 2 mois. Et une fois qu'on a vérifié que c'est bien des cellules souches, on les différencie en cellules de ce qu'on veut. Donc, dans notre laboratoire, on travaille notamment sur le foie ou des pathologies cardiaques. Donc, basé sur les modèles de développement embryonnaire, on connaît les signaux pour aller diriger une cellule souche vers un type cellulaire particulier. Donc, ce qui nous permet maintenant d'avoir un modèle génétique qui est directement lié au patient et qui permet de comprendre les bases moléculaires de cette pathologie. L'autre application qu'on peut voir de ça, c'est la correction avec ces technologies CRISPR pour pouvoir obtenir des cellules saines qui viennent du patient et de pouvoir penser à pouvoir les réinjecter à différents sites pour essayer de rétablir une maladie, de corriger cette maladie. Si on revient sur le Bennett-Lelax, donc Duncan Idaho va avoir plusieurs vies. Il va côtoyer l'empereur Dieu tout au long de ses 3500 ans.
Alors, il a plusieurs vies, mais aucune mémoire. Donc, en fait, il revient à chaque fois vierge de son passé. En fait, les Tleilaxu régénèrent un corps, mais ne régénèrent pas une mémoire. Voilà. En tout cas, dans un premier temps. Je sais que ça change au cours de l'œuvre. Mais dans un premier temps, la seule chose dont se souvient le Gola, puisque ça s'appelle comme ça, c'est les instants de sa mort. Voilà. Et ensuite, il écrit une page vierge. Il est levé par le Bennett Lilax. Et
envoyé à l'étau 2 pour pouvoir...
Voilà, pour pouvoir le tuer, d'ailleurs. Mais ouais. Ça, c'est une autre question.
Alors là où Herbert pousse plus loin le concept, et c'est là où ça devient assez intéressant, c'est qu'effectivement, on a Duncan Idaho qui se répète dans le temps. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'immortalité ? Pas vraiment, parce qu'on a toujours en fait, le même épisode qui se répète encore et encore. Son ADN a été modifié, mais reste le même. Il n'y a pas d'évolution liée à la reproduction. Mais comme on le disait avant, le Bene Gesserit a la capacité d'interroger les vies antérieures, donc des sœurs qui les ont précédées. Et en fait, en utilisant cette technique, elles réussissent à débloquer les mémoires vécues passées de n'importe quel Gola, dont Duncan Idaho. Et donc c'est plus tard, donc en dehors de l'Empereur Dieu...
Dans l'œuvre du Fils, notamment.
Non, dans les, je ne sais plus si c'est le tome 6 ou le tome 7, où là, il y a le Bene Gesserit, en fait, en le torturant, va débloquer sa mémoire, et donc toutes les vies qu'il a pu vivre. Et là, du coup, on commence à toucher à un phénomène qui n'est pas souvent décrit dans la littérature, c'est une espèce d'immortalité. Donc cette mémoire qui perdure, qui évolue, qui s'enrichit des expériences avec le même corps qui revient encore, encore et encore. Et c'est là où on peut...
Qui est obligé de passer par toutes les étapes, par l'enfance, par l'adolescence, voilà.
Tout à fait. Et l'activation se fait au moment de l'adolescence.
Ouais.
Et donc là, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle intéressant à faire avec donc le côté, donc ce fantasme qu'on a de télécharger la conscience dans un ordinateur. Et donc, par exemple, vous avez pu voir dans le film Transcendance avec Johnny Depp. Et dans ce film, en fait, on a la possibilité potentielle d'avoir des réseaux informatiques suffisamment compliqués pour pouvoir accueillir une conscience qui va ensuite continuer d'évoluer. Le problème, c'est est-ce que cette conscience garde son humanité, parce qu'elle ne vit plus du tout les mêmes expériences que l'original. On n'a pas les sentiments ou les... un peu comme l'Eto 2... sous sa forme de verre avant qu'ils ne connaissent l'amour.
Oui, ils renoncent à un certain nombre de choses humaines pour acquérir l'immortalité, c'est certain.
Et Duncan Idaho, du fait de pouvoir retrouver sa mémoire, lui, en fait, c'est un peu le prototype de l'homme immortel.
Oui, tout à fait.
Qui garde son humanité.
Oui.
Donc c'est un peu...
Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est le prototype de l'homme qui garde son humanité tout en devenant immortel. Il réalise véritablement le fantasme humain, alors que souvent l'immortalité est quand même associée au renoncement et à la perte de quelque chose, à une mise en danger en fait de l'homme, ce qui n'est pas le cas pour Duncan Idaho.
Donc après, la question se pose de l'immortalité est-elle liée seulement au vaisseau? À la mémoire ou à la conscience, à l'ensemble des deux, en interagissant avec son environnement. Est-ce que c'est une vision simpliste liée à notre humanité et qu'en fait l'immortalité transcende tout ça? C'est des questions qu'on peut se poser.
Ce sont des questions en effet complexes et philosophiques et voilà.
Alors, pour ce qui est de... Donc, si on reprend un petit peu... Pardon. Si on ressaisit un petit peu les différents biais par lesquels l'œuvre de Herbert permet d'aborder la question de l'immortalité, donc, on a vu se profiler la question de la régénération et donc de la maîtrise des cellules et de l'ADN. La question, alors, du clonage, mais dans une perspective finalement extrêmement ritualisée. Et à chaque fois, enfin, ce qui me semble frappant dans la perspective adoptée par Herbert, c'est que cette question de l'immortalité, elle est quasiment toujours déconnectée de questions de société. C'est-à-dire que finalement, il est question à chaque fois d'individus particuliers, il est question de cet empereur pour le coup, adopte une forme qui est assez grotesque. C'est une question individuelle dans le traitement qu'en fait Herbert. C'est-à-dire que ce qui est quand même assez frappant, justement, c'est qu'il y a ce refus chez Herbert d'envisager la question de l'immortalité dans une perspective sociale et presque politique pour la réserver finalement à des individus très spécifiques et dans un système finalement binaire qui est celui de l'immortel et de la personne qui revient toujours. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette manière d'aborder la question de l'immortalité, est-ce qu'il y a, disons, un certain nombre de biais dans la logique d'Herbert qui, finalement, sont des biais, enfin, en grande partie, esthétiques? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que, finalement, la façon dont il envisage le problème n'est pas un petit peu orientée par la manière spécifique dont il conçoit son cycle, qui est en grande partie un cycle de space fantasy?
C'est-à-dire que finalement, la structure féodale et la conception finalement profondément épique et mythique l'amène à privilégier effectivement l'individu sans nécessairement que ça corresponde obligatoirement à une façon obligée de traiter l'immortalité.
Moi, je pense qu'effectivement, il est dans un univers totalement mythologique. Donc, il envisage l'immortalité que d'un point de vue personnel. Et il ne regarde absolument pas les bienfaits ou les méfaits de l'immortalité sur des tranches de population. Enfin, il y a d'autres auteurs de science-fiction qui se posent cette question, mais Herbert, lui, il est simplement dans le conte, dans la narration d'une histoire avec des personnages qu'il met en avant.
Il y a le questionnement qu'a Leto sur sa condition, mais d'un point de vue social, du fait, parce que il y a le côté immortalité et le côté préscience globale qui fait qu'il impose une tyrannie sur 3500 ans. Donc c'est la paix, c'est très beau, mais dans un contexte qui est très dur, très rigoureux. Donc c'est vrai que c'est large. En fait,
il pose une autre question, je pense, à travers l'immortalité. C'est que le dessein de l'empereur Dieu, c'est de faire le bien de l'humanité. Et pour faire le bien, il est absolument tyrannique. Bon, ça, c'est une question que s'est posée tout le XXe siècle à travers les utopies politiques, justement. Pas utopies politiques, à travers le communisme. Et je pense que c'est aussi à cette question qui touche, c'est-à-dire l'immortalité que lui, en fait, il continue à associer à un système théologique, pour moi, à un système divin.
Après, il y a ça permet aussi de développer des éléments dans un environnement qui est peut-être un peu plus simple, mais qui donne plus d'espace à la réflexion qu'il y a autour de l'immortalité. Mais là, c'est vrai du côté personnel, sans avoir la complication sur le côté social et les interactions avec il y a l'interaction avec l'environnement, notamment avec Arrakis, les vers et compagnie, mais pas trop avec son prochain, quoique. Mais en tout cas, ça permet d'avoir, et c'est souvent aussi des démarches qu'on peut avoir en biologie, c'est d'essayer de simplifier le modèle pour mieux le comprendre et ensuite de revenir en arrière pour l'intégrer dans un système plus complexe. Donc peut-être que l'œuvre d'Herbert peut être vue comme quelque chose qui est... Donc, ça paraît compliqué entre l'organisation qu'il y a entre les maisons, la sororité des Bene Gesserit, les honorés matriarches qui viennent par la suite. Mais effectivement, c'est un peu simpliste. Mais ça aide peut-être justement à développer un peu plus profondément certains aspects, comme celui de Leto 2.
Moi, je pense qu'il est du côté de l'épopée, en fait. Et du coup, qui développe un modèle simple. Tu parlais de Gilgamesh au début et de sa quête de l'immortalité après la perte de son ami. Et je pense que dans Frank Herbert, on est dans ce genre de récits épiques encore qui sont du côté du héros, donc de la question individuelle.
Alors une chose qui me semble frappante, c'est que finalement, il y a la confrontation de ce modèle qui serait un modèle potentiellement épique avec un personnage qui est un anti-héros. Leto 2, c'est tout de même une sorte de figure profondément repoussante.
Qui haï ensuite.
Puis voilà. On l'appelle le tyran.
Et en même temps, le deuxième modèle, c'est celui qui est autour de Duncan Idaho et du système du clonage, qui lui donne la possibilité d'un développement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que la figure de l'empereur Dieu, dont son immortalité est une figure figée, qui ramasse toute une série de caractéristiques associées à l'immortalité que vous avez tout à fait évoquées, c'est-à-dire la question de l'ennui, la question de l'incapacité à apprécier la vie. Et finalement, la peur de la déconnexion par rapport à la réalité de la vie, et notamment par rapport à la question de la sexualité, donc la possibilité d'une relation, une sexualité, et donc d'une descendance. Donc l'image de l'immortel comme l'individu qui n'a pas de descendance, c'est une association qui est tout à fait standard dans la représentation de l'immortalité. Et en même temps, en face de cela, une perspective qui, elle, pour le coup, devient beaucoup plus proche d'une perspective de science-fiction et beaucoup moins d'une perspective mythique, qui est celle, justement, du dispositif technique qui va être celui du clonage, celui de la reproduction et qui laisse la possibilité d'une progression et donc la possibilité que des éléments nouveaux puissent arriver. Et donc là, on a finalement une possibilité de différenciation entre plusieurs modalités de science-fiction.
Oui, c'est ça qu'on trouvait intéressant, effectivement, c'est que l'immortalité est appréhendée de différentes manières dans Dune. Et qu'il propose plusieurs modèles, hein, un modèle plutôt ancien et du côté de l'épopée, et un modèle plus SF et du côté de la manipulation génétique. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Alors pour le coup, il y a tout de même. J'aimerais revenir un petit peu sur cette question des cuves, Clélax et Axolotl, et de l'usage en fait, qui en effet, c'est-à-dire finalement d'un asservissement du corps féminin, une idée qui est d'ailleurs reprise et développée de façon absolument terrifiante par Herbert lui-même dans La Ruche Elström, où il y a de la même façon cette logique de l'organisation d'une société sur le modèle d'une ruche et avec l'existence de femmes-ventres, en fait. Hein. Donc l'idée de ramener la biologie féminine uniquement à la possibilité de la reproduction, qui est déjà en puissance, hein, d'ailleurs dans le Bene Gesserit, puisque ce qui définit une Bene Gesserit, c'est qu'elle a bien enfanté. C'est littéralement le nom Bene Gesserit signifie ça. Et en même temps, donc ce questionnement qui devient un questionnement éthique, dans le fil du cycle, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout présenté comme une position positive, au contraire. Et donc il y a un usage, une façon chez Herbert de poser des réalités qui peuvent être fascinantes et en même temps de les poser comme fondamentalement, éthiquement discutables, qui me semble un bon moteur de son écriture et finalement d'interrogation de cette notion de l'immortalité. C'est-à-dire qu'il la pose comme déjà présente et fascinante et en même temps comme fondamentalement problématique.
Donc à quel prix? Et là, c'est aussi parce que du coup, par rapport à Duncan Idaho, qui a donc qui subit un processus cyclique qui maintient donc cette mémoire et donc survit à travers les âges, à quel prix? Et le prix des femmes en fait, qui sont les cuves Axolotl, qui vont donner naissance aux futurs Gola, que ce soit Duncan ou tous les autres Gola qui sont générés dans le cours du cycle. Donc effectivement, il y a peut-être l'utilisation de ce modèle permet de souligner le côté, le questionnement qu'on peut avoir sur l'humanité et l'immortalité et le prix à en payer pour pouvoir y accéder.
Et c'est vrai que dans toute la saga de Dune, en fait, le Tleilax est vu comme une caste profondément répugnante, en fait, qui dégoûte les autres. Et c'est notamment le cas de leur émanation, là, les danseurs visages. Qui sont vus comme des personnages qui font peur. Et je pense que derrière, effectivement, il y a un jugement éthique, hein, de la part de Herbert qui nous met en garde contre les manipulations génétiques de manière assez claire.
Alors justement, j'aimerais revenir un petit peu sur le versant réel de votre exposé. C'est-à-dire revenir un petit peu sur la question de cet usage de cellules et de le fait de revenir à des cellules souches en association d'ailleurs avec... pour le coup, je ne suis pas certain qu'on ait suffisamment eu de détails sur l'outil génétique CRISPR-Cas dans son lien avec la question de la régénération et la question de la manipulation des cellules. C'est-à-dire finalement, peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations sur cette question. Mais d'une manière générale, quelle est la situation actuelle en termes d'éthique? Justement, parce que le clonage est évidemment quelque chose qui développe automatiquement, qui est associé à des sujets extrêmement brûlants d'un point de vue social. Mais quelle est la situation d'un point de vue éthique par rapport justement à cette question des cellules souches pluripotentes ou,
Alors, il y a donc plusieurs types de cellules souches. Hein, donc, c'est aussi une question qu'on avait eue dans une table ronde avant. Donc, on a les cellules souches multipotentes, pluripotentes et totipotentes, pour faire bref. Donc, si par exemple on a un dégât au niveau d'un organe, que ce soit par exemple au niveau d'un muscle ou du foie, qui est ma spécialité, des cellules souches vont s'activer pour essayer de le régénérer. Et donc, ces cellules ont la capacité de devenir d'autres cellules de foie, si on prend le foie, mais elles ne pourront pas donner des cellules de muscle. Donc, ces cellules sont dites multipotentes. Elles ont le choix entre plusieurs lignées cellulaires pour être différenciées. Ces cellules ne pourront pas donner un individu entier. C'est le cas des cellules pluripotentes qui, elles, ont la capacité théoriquement de donner n'importe quelle cellule du corps humain. Donc, quand on reprogramme des cellules d'un donneur en cellules souches pluripotentes induites, donc ces fameuses souches cellules IPS, ces cellules peuvent donner, si on a les bons ingrédients et les bonnes techniques, toutes les cellules du corps humain. On ne peut pas avoir un embryon qui vient de ces cellules parce qu'elles ne sont pas totipotentes. Les cellules totipotentes sont les cellules souches embryonnaires qui, elles, peuvent donner l'embryon, mais aussi les annexes embryonnaires qui sont essentielles pour le développement de l'embryon. Donc ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, donc, c'est la possibilité de manipuler le génome. Alors, cette technique du CRISPR-Cas, c'est un peu la troisième génération d'outils moléculaires qui ont permis de modifier le génome chez les mammifères. On se base sur des protéines qui peuvent reconnaître l'ADN et qui vont induire l'expression d'un gène pour, donner des protéines qui sont impliquées dans la formation du cytosquelette cardiaque pour permettre sa contraction. Ces facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de transcription, ont des domaines qui reconnaissent l'ADN. Donc on peut sortir ces domaines et puis les manipuler pour aller choisir la région d'ADN qu'on veut cibler. Et ensuite, on induit une coupure de l'ADN, la cellule veut réparer, et pour réparer, elle va essayer d'utiliser une matrice qui est similaire. Et pour essayer de tromper la cellule, on amène artificiellement une matrice qui va permettre d'introduire de nouvelles séquences d'ADN. Le CRISPR-Cas vient d'un système de défense de bactéries qui sont constamment attaquées par des virus. Pour se défendre de ces virus, les bactéries vont dégrader l'ADN du virus qui va infecter la bactérie et vont récupérer des petites parties de cet ADN viral pour l'inclure dans leur génome au sein de séquences particulières. Une fois que la bactérie va revoir le même virus, elle va, grâce à la formation qu'elle a dans son ADN, elle va reconnaître le virus et envoyer une enzyme qui va couper l'ADN du virus et le virus ne pourra plus être actif. Et en fait, ce système a été détourné. Donc, une chercheuse française, Emmanuelle Charpentier, et une chercheuse américaine, j'ai plus son prénom, mais c'est Doudna, son nom de famille, ont réussi à vraiment décortiquer ce mécanisme et se l'approprier pour l'utiliser en biologie moléculaire. Maintenant, il y a le côté éthique autour de tout ça. Donc, pour les cellules souches, et notamment les cellules souches embryonnaires, c'est très encadré. Donc, en recherche, on est obligé d'avoir une autorisation de l'Agence de la biomédecine pour pouvoir manipuler ce type de cellules. Et donc tout ça est dépendant du type de projet. Et si les projets scientifiques peuvent utiliser une autre source de cellules que des souches embryonnaires, les projets n'ont pas l'autorisation d'utiliser ce type de cellules. Les cellules souches embryonnaires permettent de comprendre des mécanismes moléculaires qu'on ne pourrait pas comprendre avec d'autres cellules. Donc c'est pour ça que certains projets ont vraiment besoin d'utiliser ce type de cellules. Mais c'est loin d'être la globalité de tous les projets. Pour la manipulation du génome, il y a un moratoire dans le monde scientifique pour stopper toute recherche au niveau de l'embryon utilisant le CRISPR-Cas pour éviter la manipulation génétique de l'embryon et la transmission à la génération suivante. Et tout ça est très, très encadré. Et il y a eu, donc c'est aussi une photo qu'on a mis dans le diaporama, il y a eu une autorisation en Angleterre en 2015 pour une équipe de recherche qui travaille sur un élément très particulier du développement embryonnaire dans les premières étapes et qui a eu l'autorisation d'effectuer de la transgénèse en utilisant le système CRISPR-Cas. Mais tout ça, et notamment en France, est très très encadré et très rigoureux.
Bien, alors on va peut-être ouvrir le champ aux questions du public. Il y en a une ici, voilà. Alors, il y a un micro qui arrive, voilà.
Les vers d'arachis, pourquoi ils sont les seuls à produire l'épice ? La seule espèce ?
Alors ça, c'est bien pratique.
C'est un parti pris d'Herbert. Hein. Il choisit une planète qui n'a aucune richesse à part justement ces vers immenses qui produisent de l'épice. Et je pense qu'il n'y a pas de raison spéciale.
Ce qui est intéressant avec les vers des sables, c'est que pour faire un parallèle un peu... c'est un peu des cellules souches, c'est-à-dire que c'est un petit peu des êtres symboliques pluripotents ou totipotents, c'est-à-dire que finalement on a pu assimiler à la question de l'épice, à la question des ressources de type l'or noir, enfin le pétrole et ainsi de suite, mais en fait Herbert décline toutes sortes de symboles possibles associés au vers au fur et à mesure de son cycle. Donc, et notamment, effectivement, associer, c'est quand même un coup de force d'associer l'idée de vers des sables à l'idée d'immortalité. Et en même temps, c'est un renvoi à l'idée que des formes plus simples que la nôtre peuvent être porteurs de possibilités biologiques
C'est vrai. Puis je pense que justement, dans l'Empereur Dieu, il y a cette espèce d'idée aussi d'un temps cyclique. Puisqu'il devient immortel grâce aux truites des sables, et quand il tombe dans l'eau, les truites des sables se désolidarisent de son corps et donnent lieu à nouveau à des nouveaux vers. Donc il y a, oui, il y a un temps cyclique et il y a un temps complètement dégagé du temps.
Si on pousse après sur ce qu'a fait son fils Brian, il pousse un peu plus loin le concept, et en fait il arrive à faire par le Bennett-Lelax de l'épice grâce aux cuves. De un, et deux, il génère des vers qui sont résistants à l'eau et qui produisent du coup qui ne laissent plus leur épice dans le sable, donc on n'a plus de mine, enfin de taches d'épice, et d'extraction. En fait, tout est concentré dans une glande et ça donne une super épice.
Mais en fait, sinon dans la nature, ils sont endémiques d'Arrakis ?
Tout à fait. C'est une espèce qui n'existe que sur Arrakis et. C'est une espèce qui disparaît d'ailleurs pendant le règne de l'Empereur Dieu, puisque lui, il se fait une grosse cache d'épices et qu'il est le seul ver qui a le droit de vivre. Donc pendant 2500 ans, il n'y a qu'un seul ver et c'est lui. Et
du coup, il contrôle toutes les routes galactiques, tous les voyages en fait.
Puisque l'épice, c'est une espèce d'or noir quand même aussi, comme tu le disais.
Alors, y a-t-il une autre question ? Oui, juste derrière.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais à nouveau poser une question à Karim, revenir à un côté plus scientifique. J'entends bien ce que vous disiez, donc évidemment sur les comités bioéthiques, etc., le fait qu'on stoppe les recherches à un certain nombre, par exemple, de divisions de cellules, etc. Mais est-ce qu'on ne se prive pas, en étant vertueux ou moraux, d'un certain savoir-faire technique par rapport à d'autres, soit laboratoires ailleurs dans le monde, ou à d'autres pays qui auront peut-être moins ces vertus, mais qui vont progresser et continuer la recherche
La recherche est internationale, hein, ça va vite dans tous les pays. Et en fait, le moratoire est vraiment au niveau international. Donc, on essaie de faire en sorte que tous les labos qui ont des fonds publics puissent agréer à ce moratoire pour éviter, pour l'instant, stopper toute recherche liée sur l'embryon et la manipulation du génome. Alors, l'exception vient de la Chine qui a généré deux papiers. Alors, ils contournent un peu le problème parce qu'ils utilisent... Donc, vous savez qu'on peut avoir des embryons dans des centres de fécondation in vitro. Et souvent, quand on fait une fécondation in vitro, on a deux spermatozoïdes qui rentrent dans l'ovule. Et donc, on se retrouve avec un embryon triploïde. Cet embryon peut se diviser normalement au début, mais le fait que le matériel génétique soit en triplé, au bout d'un moment, ça induit une erreur dans la prolifération des cellules, dans la mitose, et l'embryon n'est pas viable. Donc il n'y a pas d'individu triploïde. Cependant, ça permet de faire des recherches sur les étapes précoces du développement embryonnaire humain.
Et de ce point de vue-là, que dire du fait que... il y a ce déplacement dans un environnement totalement non éthique, enfin très très loin d'une autre. Finalement, les questions que pose Herbert prennent place dans un environnement qui n'a pas du tout les préventions que nous avons.
Oui, et ça dérive totalement. Donc, de toute façon, le Bennett-Lelax s'autorise des manipulations en tout genre. Donc Nathalie a évoqué les danseurs visages qui ont la possibilité de changer de forme. Il y a aussi d'autres, il y a un peu On revient sur l'île du docteur Moreau avec des chimères hommes-animaux qu'on voit dans plutôt l'œuvre du fils. Mais effectivement, il n'y a aucune limite. Et c'est aussi une des peut-être bonnes choses de la science-fiction. Ça reste de la littérature pour laquelle on peut s'ouvrir et laisser ouvert à l'imaginaire et ne pas être contraint par les limites bioéthiques.
Mais avec quand même cette répugnance qui demeure et qui, à mon avis, est le reflet d'un jugement moral.
Alors, y a-t-il une autre question dans le public? Sinon, je peux. Il y en a une apparemment, mais je vois pas bien. Oui, pardon. Allez-y.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous parliez de vision un petit peu étriquée concernant la vision de Herbert sur l'immortalité, aussi sur le clonage dans Dune. Mais en revanche, dans certains livres comme Destination vide ou L'incident Jésus, où là, c'est clairement sur le clonage, Herbert aussi aborde toutes ces questions, toutes les questions éthiques d'un point de vue sociétal très, très approfondi. Moi, à l'époque, je l'avais lu au moment où il y avait Dolly. Et tout ce que je pouvais entendre à la télé, je pouvais le lire, toutes ces questions-là, je pouvais le lire dans, le livre, dans les livres d'Herbert.
Moi, je parlais vraiment en focalisant sur Dune. Dans l'environnement de Dune et la façon dont il amène ses concepts, c'est vrai que c'est beaucoup plus restreint en termes de conséquences environnementales. Après,
la,
pour les
la saga
autres,
prend le dessus sur les questions éthiques. Hein. Il y a aussi une trame politique qui est vraiment très importante dans Dune et qui prend beaucoup de place, qu'on n'a pas du tout évoqué ici. Et qui fait que les questions éthiques sont laissées de côté aussi, je pense. Après.
Effectivement, il ne faudrait pas faire de Herbert quelqu'un qui ne se pose pas ces questions éthiques.
Il les
anamorphose dans Dune d'une certaine façon, mais effectivement, dans ses autres ouvrages, La ruche d'Elström, Destination vide, il aborde encore d'une autre manière les choses. Ça fait partie des ressources de l'auteur. Y a-t-il une autre question? Sinon, je peux. Alors, oui, en attendant que le micro arrive, j'aurais une petite question. C'est finalement sur la concurrence qu'il peut y avoir dans les représentations que propose Herbert entre la logique de la croissance de l'individu d'Uncan Idaho, donc qui se forge. Ses propres expériences en tant qu'individu et la question de l'application ensuite d'une mémoire externe. Parce que finalement, là, on est de toute façon dans un questionnement éthique particulier qui est que chaque clone devrait ou pourrait être considéré comme un individu unique. Le supposé qu'il est destiné à recevoir une identité spécifique est un petit peu étrange. Ça en fait, si j'élargis un peu la question, ça fait quasiment du clone entier une sorte de banque d'organes totale. C'est-à-dire que, non pas simplement avec l'idée qu'on va prélever tel ou tel organe, mais que la totalité du corps est simplement, comme vous l'avez dit à un moment donné, un vaisseau, hein, le vaisseau d'une conscience. Et donc, quelles interférences peut-il y avoir entre l'expérience du support et la réactivation de la mémoire, s'il y en a une, dans ce que présente le cycle de Dune? Y a-t-il un écrasement total ou y a-t-il des interférences?
Ben moi, je pense que c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce que justement, paradoxalement, chaque nouveau clone a quand même une vie qui lui est propre. Et notamment, il y a une scène dans L'Empereur Dieu où Duncan Idaho rencontre les enfants de son ancien clone. Donc une scène un petit peu comme ça, surprenante.
Il s'en rend compte, triste de cet état de fait. Il sait très bien que c'est lui-même un clone et qu'il y a eu plusieurs fois lui-même
donc,
sur des générations.
Donc il y a une souffrance en fait d'être un Gola, hein, qui est clairement
en fait, sa réactivation intervient bien plus tard. Et en fait, chaque clone Duncan Idaho avait sa propre vie avec... Oui.
Plus ou moins longue selon sa rapidité à essayer de tuer l'empereur Dieu. Il y en a certains qui font pas très long feu, mais ils ont une vie qui est propre en fait.
D'accord. Voilà. Alors donc une dernière question et puis on va. Oui, allez-y.
Oui, du coup, en fait, la régénération des cellules, c'est vrai que ça peut être utile en science, mais ça fait quoi si on mais les cellules, par exemple, pour d'autres, des membres surnuméraires, c'est un peu un sujet bizarre. Mais oui. C'est un peu bizarre.
Non, non, c'est, bon, en fait, c'est, effectivement, on n'est pas. Sur un être humain, ça va être très difficile de ne pas respecter le plan d'anatomie de l'être humain pour pouvoir ajouter des membres ou autre chose. Donc là, ça vient vraiment un peu de la science-fiction chimérique. Par contre, ça a été le cas, et c'est en fait, dans la recherche, un élément qui a permis de comprendre un peu comment le développement embryonnaire se passait, comment les choses se mettaient en place. Dans le modèle de drosophile, donc chez la souris, donc c'est des gènes qu'on appelle les gènes homéobox. En fait, on a compris que ces gènes étaient des gènes maîtres qui permettaient de lancer tout un programme pour le développement des ailes, des pattes. Et donc, c'est ce qui a permis, par exemple, d'obtenir des pattes au lieu des antennes chez ces mouches. Donc, en fait, ça a vraiment posé des fondements de la génétique développementale.
Bien, on va rendre l'audience. Merci pour votre participation et merci à nos intervenants.
Merci.